Nous allons faire une lecture ensemble dans le premier livre des rois, au chapitre 18. Nous commencerons à partir du verset 46. Premier livre des rois, chapitre 18, verset 46. La main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure « Je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regardait et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Amen. J'aimerais que nous nous entretenions ensemble ce soir de la manière dont Dieu est capable de relever celui qui est découragé, lui renouveler les forces, lui redonner du courage et lui permettre de poursuivre sa route, son chemin, et d'accomplir le plan pour lequel Dieu l'a appelé, pour lequel Dieu lui-même lui a concédé la possibilité de faire un service pour la gloire de son nom. Nous allons nous pencher sur l'expérience de cet homme, Élie, qui, comme vous avez pu le constater au travers de cette lecture, était arrivé au bout du rouleau. Nous avons un homme qui est désabusé, qui est rempli d'angoisse et qui, après avoir accompli une mission très importante, puisque chacun d'entre nous le sait, il avait réussi sur le mont Carmel à remporter une victoire sur tous les prophètes de Baal, qui l'avaient d'ailleurs conduit jusqu'au torrent, où il les avait égorgés, tellement son zèle s'est déployé pour l'Éternel, et il a supprimé ainsi un grand moyen d'idolâtrie au milieu du peuple d'Israël. Mais à la suite de cet événement, eh bien, Jézabel, la femme d'Akab, a manifesté sa grande colère, sa haine pour ce serviteur de Dieu, et elle a fait justement une promesse de lui supprimer la vie et de se venger de la manière dont Élie avait accompli le plan de Dieu, la volonté de Dieu sur ces êtres qui n'étaient pas bien sûr conformes à la volonté du Seigneur. Ainsi donc, Élie a dû prendre la fuite. Mais justement, ce que nous devons remarquer ce soir, c'est qu'il a pris cette décision sans même consulter l'Éternel. Et il a décidé de partir le plus loin possible. Et d'ailleurs, quand on fait attention au chemin qu'il a parcouru, on s'aperçoit qu'il a fait une centaine de kilomètres comme cela, à pied, pour trouver un endroit où il allait pouvoir se réfugier. Et malheureusement, cet homme a dans son cœur que des pensées négatives. Il a ce sentiment d'un échec terrible. Il a l'impression qu'il a pas fait toutes choses comme il convenait. Il a simplement l'impression d'avoir échoué dans le plan de Dieu. Cependant, il a quand même, avant de sombrer dans cette sorte de dépression, accompli un exploit qui est vraiment remarquable. Et d'ailleurs, c'est le premier verset que nous avons lu qui souligne cela. Il est dit que la main de l'Éternel était sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jisréel. Là, il y avait une distance, je dis qu'une distance, de 30 kilomètres pour aller du Carmel jusqu'à Jisréel. Mais écoutez bien, frères et sœurs, il a fait 30 kilomètres en courant devant le char d'Achab qui, lui, était tiré par des chevaux. Alors, je ne sais pas, mais il faut vraiment que ce soit un miracle extraordinaire que de pouvoir accomplir un tel exploit. Le secret, c'est que la main de l'Éternel était sur lui à ce moment-là. Et puis après, eh bien, apprenant cette nouvelle terrible que Jézabel le poursuivait, dont il a pris la fuite. Cette fois, il ne courait plus, mais il a marché, et on s'aperçoit que la distance qu'il a parcourue, comme je l'ai dit précédemment, était d'environ une centaine de kilomètres. Et quand il est arrivé à un certain endroit, Beersheba, c'était un lieu de passage pour lui, eh bien, il s'est séparé de son serviteur. Je profite de l'occasion pour vous dire que quand on est dans un moment de découragement, on peut peut-être laisser tomber, sans s'en rendre compte, ce qui pourtant pourrait être pour nous moyen de nous aider. Le serviteur d'Élie avait été à ses côtés jusque-là, mais arrivant à cet endroit, il décide de le laisser, de l'abandonner, et c'est un danger qui peut justement être le partage de ceux qui, dans des moments de faiblesse, de dépression spirituelle, ont tendance à délaisser leur ami, de délaisser leur soutien. Et pour Élie, délaisser son serviteur, c'était un point. Mais ce qui est terrible, c'est que il a aussi délaissé le contact avec Dieu. Il a délaissé la recherche de la face du Seigneur. Comme je l'ai dit précédemment, il a pris une décision sans même consulter Dieu. Quand il était en relation étroite avec le Seigneur, eh bien, il est capable de faire des exploits. Mais quand il néglige cette recherche de la face de Dieu, alors il prend des décisions qui ne sont pas appropriées et cela l'amène jusque dans le désert. Pourtant, je dirais que dans sa première expérience, quand il courait devant Achab, il a fait déjà l'expérience du soutien de Dieu qui nous est présenté notamment dans le livre du prophète Ésaïe. C'est un passage que chacun d'entre nous connaît très bien, au chapitre 40 et au verset 31, où il est dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils peuvent être renouvelés comme l'aigle, ils courent et ne se fatiguent pas, et ils sont capables, dans le fond, de trouver des ressources en eux-mêmes, parce que c'est Dieu qui leur communique. Et quand il courait devant Achab, je vous invite à considérer cela avec moi, Eh bien, Achab avait devant les yeux cette espèce de, excusez l'expression, de marathonien, et qui était là, qui était aussi un exemple pour lui, parce que malgré la sécheresse qui avait duré un certain temps, cet homme avait une force considérable, et là encore, il faisait l'expérience de ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, notamment au chapitre 41, où il est dit que même dans le désert, et même dans les lieux de solitude, eh bien, on peut être comme un arbre verdoyant qui peut être renouvelé intérieurement et retrouver des forces. Tout cela, Achab a pu le constater, a pu le voir, et c'était un témoignage vivant devant lui que ceux qui sont pour l'Éternel sont capables de réaliser des exploits. Hélas, hélas, je dois en venir juste à ce moment-là où, d'un seul coup, eh bien, il prend cette décision, mettant de côté l'Éternel, d'aller se cacher loin, loin, dans un endroit désertique. Il a marché pendant de longs jours. Il a fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, une centaine de kilomètres. Mais quand il est arrivé à l'endroit qui est fixé par la parole de Dieu, il est dit qu'il a fait encore une journée de marche dans le désert. Puis il est allé entrer dans cette caverne, et là il s'est adressé à Dieu dans cette prière tellement négative, en disant « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Je voudrais m'arrêter ici un instant pour vous dire, frères et sœurs, nul n'est à l'abri d'un moment de découragement, même si précédemment, on a pu accomplir, réaliser quelques exploits avec le Seigneur, même si on a pu faire quelques expériences qui sont vraiment positives, merveilleuses. Vous voyez, personne, je pense ce soir, ne peut se comparer à cet être exceptionnel qui est Élie, bien que la parole de Dieu nous dit que cet homme était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire donc que ce qui a été son partage peut être aussi notre partage, aussi bien dans ce qui est positif que, hélas, malheureusement, dans ce qui est aussi négatif. Et je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire que l'excès de fatigue constitue pour Satan un terrain d'action particulièrement favorable, et que c'est souvent dans les moments où nous sommes abattus pour une raison ou pour une autre, à cause de certaines circonstances qui interviennent dans notre vie, que le diable peut profiter de l'occasion pour faire un travail de ravage à l'intérieur de nous-mêmes, au niveau de notre âme. La semaine dernière, vous vous souvenez que nous avons médité sur un autre passage qui se trouve dans le livre des Juges et qui concernait l'expérience de Gédéon. Et le verset central, c'était que Gédéon, avec les 300 hommes qui étaient avec lui, eh bien, poursuivait toujours malgré la fatigue. Ces hommes étaient fatigués, harassés, mais ils poursuivaient toujours. Mais vous voyez, frères et sœurs, ce qui a été vrai dans cette expérience faite par Gédéon et les 300 hommes n'est pas aussi une généralité. On ne peut pas toujours conclure qu'il en sera de même toujours pour chacun d'entre nous. Et il peut y avoir ces moments où nous passons par un tunnel, nous passons par un moment justement de dépression un peu spirituelle. Et c'est là. Et c'est pour ça qu'il y a cette méditation ce soir, que le diable vient, parce qu'il profite toujours de tels moments pour essayer de nous attaquer. Par exemple, nous avons dans la parole de Dieu plusieurs témoignages qui mettent en relief que le malin profite de ces moments où nous sommes un peu en bas sur le plan moral pour essayer d'agir et de nous faire du tort. Je voudrais simplement vous rappeler que dans le livre du Deutéronome, au chapitre 25, et à partir du verset 17, le verset 17 et jusqu'au verset 19, il y a un rappel de l'histoire d'Israël. Et dans ce rappel de l'histoire d'Israël, il est dit, souviens-toi que lorsque tu étais fatigué, harassé, c'est la parole de Dieu qui s'adresse au peuple d'Israël, c'est là qu'est venue après de nombreuses semaines de marche dans le désert l'attaque des Amalécites. Amalek est arrivé et il a fondu sur eux. Vous voyez, c'était au moment où ils étaient fatigués, c'est l'expression utilisée par la parole du Seigneur. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 17, et à partir du verset 1er, eh bien, Achitophel, qui était pourtant un homme ayant la possibilité de donner des conseils et qui était très important, mais qui à un moment donné est tombé entre les mains du malin, et Achitophel, le grand conseiller du roi David, a proposé à Absalom, le fils justement de David, de lui porter main forte et de tomber sur David à un moment donné où il est dit dans le passage que j'ai cité en référence que David était extrêmement fatigué. Vous voyez, le diable a profité de cette occasion-là. Un peu plus tard, toujours dans l'expérience de David, eh bien, on voit que des géants se sont approchés de David. Et il est dit que David était encore, c'est dans 2 Samuel chapitre 21, à partir du verset 15, était fatigué, harassé, et même à un moment donné, il a glissé en menant le combat, et un des Goliaths qui était là, c'est-à-dire un géant des Philistins, s'est approché de lui pour lui donner la mort, et heureusement qu'il y avait un ami à côté de lui pour le secourir, et qui a affronté le géant et l'a anéanti. Mais nous voyons bien que c'est dans ces moments-là que le diable a voulu aussi le détruire. Et puis, le dernier exemple, le plus évident pour chacun d'entre nous, et qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 13, eh bien, c'est le moment où Jésus lui-même, après 40 jours de jeûne, 40 jours passé dans le désert, mais là, selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu, accomplissant ce que Dieu voulait pour lui, mais quand même affaibli dans son corps, a dû connaître cette faim qui est tout à fait logique, normale pour quelqu'un qui a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert, et Satan est venu pour le tenter, vous le savez avec quelle parole, si tu es le Fils de Dieu, ordonne eh bien que de ces pierres puissent paraître des pains, et ça c'était le pousser à faire quelque chose en dehors du plan de Dieu, en dehors de la volonté de son Père. La raison du succès du Seigneur, c'est qu'il n'a jamais accepté de faire quelque chose en dehors de la volonté de son Père. C'est la raison pour laquelle il a utilisé l'épée de l'esprit avec laquelle il a pu triompher de l'ennemi et il est sorti vainqueur de ce terrible moment, de cette terrible circonstance qu'il a traversée dans le désert. Ainsi, les sinistres projets de Satan, eh bien, ont été déjoués parce que Jésus est resté dépendant de Dieu, son Père céleste. C'est justement là où Élie a failli. Parce que lui, tant qu'il était dépendant de Dieu, il a réalisé des exploits. Puis à un moment donné, ayant perdu cette dépendance de Dieu, il a compté sur lui-même, sur ses propres forces. Il avait pu courir le fameux marathon dont je vous parlais tout à l'heure, parce que la main de Dieu était sur lui, mais maintenant que la main de Dieu n'est plus sur lui, ce long voyage périlleux a provoqué une fatigue extrême. Et il faut bien reconnaître que bien souvent, nos moments de dépression spirituelle sont aussi liés aux moments de fatigue sur le plan physique que nous pouvons connaître les uns et les autres. Car lorsqu'on traverse de tels moments, alors nous avons tendance à voir les choses d'une manière déformée. Je vais utiliser une image ici en cette soirée. Vous savez, j'ai eu l'occasion, certains jours, et peut-être avez-vous eu cette même occasion, de faire la visite du château de Versailles. Et vous savez que dans le château de Versailles, il y a une pièce qui est réservée à des miroirs, mais ce sont des miroirs déformants. Est-ce que vous connaissez cela ? Et il y a un autre endroit, justement à Paris, où il y a des miroirs déformants, c'est le fameux musée Grévin dont vous avez peut-être entendu parler. Et qu'est-ce qui arrive ? Lorsque vous vous placez devant ces miroirs, eh bien, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, mais vous les voyez entièrement déformées. Eh bien, c'est comme cela que dans des moments où nous sommes découragés, nous pouvons voir les personnes, nous pouvons voir les circonstances, nous pouvons voir tout ce qui se trouve autour de nous d'une manière déformée. Je m'explique. Le moindre monticule peut nous paraître une montagne insurmontable. Le moindre petit trou de souris peut nous paraître un gouffre béant. Parce que nous sommes tellement, tellement omnibulés par les circonstances qui nous accablent que nous voyons tout en noir. Certains utilisent cette expression « je broie du noir ». C'est pas une belle expression, mais elle veut dire ce qu'elle veut dire. Et certaines personnes sont des fois dans cette situation-là. Ils dramatisent tout et ils ont du mal à évaluer la situation, en tous les cas à la considérer comme Dieu peut nous aider à la considérer. Et c'est là que nous pouvons prendre des décisions qui sont néfastes. Par exemple, Ésaü, bon, qui n'est pas un être bien recommandable, puisque la parole de Dieu nous dit que c'est un profane. Mais en tous les cas, c'est dans le chapitre 25 du livre de la Genèse qu'il nous est dit, à partir du verset 29, qu'Ésaü revenait d'une journée de chasse, il était harassé, il était fatigué, et la Bible dit qu'il avait énormément faim. Et c'est la raison pour laquelle, quand il est passé devant la tente de Jacob, il a senti, n'est-ce pas, le plat de lentilles, cette odeur qui, pour lui, lui paraissait être quelque chose de formidable. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une décision qui est terrible. Pour un plat de lentilles, il a vendu son droit d'aînesse. Saül lui-même a fait une expérience identique dans le livre de Samuel, ceci est raconté. Et il est dit que, à un moment donné, alors qu'il menait le combat contre les Philistins, et puis que la guerre semblait se prolonger, il a dit à tous ses soldats, écoutez, vous ne mangez pas aujourd'hui, vous ne prenez pas de nourriture, vous allez rester comme cela jusqu'à ce que nous terminions le combat. Il les a obligés à prendre, dans le fond, une décision qui était contraire d'ailleurs au plan de Dieu, ce qui d'ailleurs n'a pas plu à son fils Jonathan, qui lui a pris une autre décision, comme vous le connaissez, parce que vous avez dû certainement lire cela dans la parole du Seigneur. Mais la décision prise par Saül a amené quelque chose de terrible, c'est-à-dire que le peuple affamé eh bien, est arrivé à transgresser la loi de Dieu. Savez-vous comment ? Eh bien, parce qu'à un moment donné, comme ils étaient affamés, ils ont pris le butin, et parmi le butin qu'ils avaient ramassé, il y avait des animaux, et il est dit qu'ils les ont tués, et ils les ont mangés sans que le sang ait été versé. Ça veut dire donc que la loi qui interdisait de manger des animaux comme cela, sans qu'ils soient saignés, eh bien, ils l'ont transgressé. Et ça a été une occasion pour ce peuple, dans le fond, de transgresser la loi de Dieu par une décision d'un homme qui n'a pas tenu compte de la fatigue de ces gens-là. Moi, je suis reconnaissant au Seigneur parce que lui, il voit les choses d'une manière différente. Et je vais vous dire, Il se souvient que nous sommes que poussière. Vous l'avez lu cela dans la parole de Dieu. Il se souvient que nous sommes souvent que faiblesse. Et il nous traite avec une grande miséricorde. Et je voudrais prendre à témoin ce passage qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 6 et à partir du verset 31, où il est dit que les disciples étaient vraiment lassés, fatigués. Il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils étaient même pas, n'avaient même pas le temps de prendre leur nourriture. Et vous savez comment Jésus a parlé à leur cœur. Et il leur a dit, eh bien, nous allons prendre un peu de repos. On va aller un peu à l'écart. Mais vous savez, quand on suit cette histoire-là, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus les a amenés dans un lieu particulier. Il a fallu qu'ils prennent la barque avec ses disciples pour traverser un certain lac. Et lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté, manque de chance, je mets entre guillemets, n'est-ce pas? Il y avait la multitude qui était là et qui les attendait. Et le Seigneur a multiplié, justement, pour la foule. Ça a été l'occasion, ce temps mis à part, mais sous la direction, sous le contrôle du Seigneur, une occasion pour que les disciples, malgré leur fatigue et leur lassitude, soient capables de voir comment Dieu est capable de nourrir une grande foule. Car, à un moment donné, ce sont les disciples qui ont dit, « Mais Seigneur, il faut que tu renvoies ces gens-là, il est tard, et il faut que tu les renvoies pour qu'ils achètent de quoi vivre et prennent leur nourriture. » Et Jésus a dit, mais donnez-leur vous-même à manger. Vous connaissez ce passage. Et c'est là qu'ils ont découvert qu'il y avait deux petits poissons, cinq pains, et là, parmi la foule, et Jésus a multiplié et a donné à cette foule tout ce dont ils avaient besoin. Et la parole de Dieu dit qu'il y en avait même de reste. Vous voyez, dans les moments de lassitude, si nous ne sommes pas dépendants de Dieu, dans les moments de découragement, si nous ne portons pas nos regards sur lui, les décisions que nous pouvons prendre peuvent être désastreuses pour notre vie et avoir des conséquences spirituelles qui sont vraiment négatives. Mais si nous restons dépendants de Dieu, le Seigneur est capable de nous conduire de telle sorte que même au travers de ces moments-là, nous allons pouvoir découvrir combien il est grand, puissant, capable de nous renouveler et de faire des choses qui dépassent même ce que nous pouvons imaginer. D'ailleurs, remarquez comment finalement Dieu est venu au secours de son serviteur. Je remarque une chose, cet homme s'est caché dans la caverne, il s'est endormi sous un genêt plutôt, il est dit dans la parole de Dieu, et voici un ange le toucha et lui dit avec douceur, « Lève-toi et mange. » C'est un petit peu différent de ce qui se trouve dans le Nouveau Testament. Quand l'ange dans la prison où se trouvait Pierre est venu, il est dit qu'il le frappa à son côté. Mais ici, il est dit « Il le toucha ». C'est-à-dire que c'est avec une certaine délicatesse que Dieu vient au secours de son serviteur. Il lui a envoyé, pardon de cette expression, mais je vais l'utiliser exprès, un ange cuisinier. Il lui a apporté un gâteau excellent, extraordinaire. Et il lui a simplement dit ceci, « Allez, lève-toi et mange. » Et Élie s'est levé, il a mangé, et puis il a recommencé à dormir. Et une seconde fois, eh bien, l'ange lui a dit, « Lève-toi et mange. » Vous voyez, il était dans le sommeil, il s'est réveillé, il mange, il retombe dans le sommeil, il se réveille, il mange, et cette fois, il va partir. Et il va partir très loin, il va faire une très longue marche, avec la force que lui a donnée ce gâteau. Dites-moi, est-ce que vous connaissez un pâtissier qui est capable de faire un gâteau qui vous donne la force de marcher pendant 40 jours et 40 nuits sans vous arrêter? Il faudrait demander à Erwan s'il est capable de faire un tel gâteau. Non. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire une chose semblable. Et nous voyons bien ici, bien sûr, l'illustration de ce qu'est la parole de Dieu pour nous. Quand Dieu nous invite à nous nourrir d'elle, il faut que nous soyons vraiment affamés de la parole de Dieu, pour que dans nos moments de découragement, nous ne fassions pas le contraire de ce que Dieu veut, c'est-à-dire la mettre à l'écart. Il y a des moments où nous disons « mais j'ai pas envie ». Mais il y a des fois où le Seigneur nous force, et il le fait parce qu'il sait très bien qu'il y a là tous les éléments, tous les ingrédients qui sont capables de reconstituer en nous une force spirituelle pour que nous puissions poursuivre le chemin. Je voudrais m'arrêter à considérer quelque chose avec vous. Vous savez, il est dit qu'il a fait un long chemin, il a marché pendant 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. C'est l'autre nom de Sinaï. Mais on sait quel était son point de départ. Et c'est curieux, mais depuis ce point de départ, qui se trouvait justement à 70 kilomètres de Beersheba, c'est-à-dire cet endroit où étaient arrivés les enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Depuis cet endroit-là, jusqu'à cette montagne, la parole de Dieu, dans un certain passage, nous dit il y a 11 jours de marche. 11 jours de marche. C'était la porte, justement, du pays de la promesse. Et depuis qu'ils avaient quitté l'Égypte, ils avaient 11 jours de marche. C'est le même trajet qu'il a à faire, à quelques kilomètres près. Et lui, il a marché pendant 40 jours. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un a remarqué qu'en ligne droite et en marchant bien, la distance qui a été suivie par Élie du mont Horeb peut donc être couverte en environ 2 semaines de marche. Il a mis 40 jours. Il s'agit d'un temps de marche au ralenti. Pourquoi cela nous pouvons le mettre en relief ce soir? Eh bien, tout simplement, mes frères et sœurs, parce que là, Dieu a permis que cet homme marche sans tension, sans pression, sans aucun doute, jalonné d'arrêts fréquents. Il fallait certainement qu'il s'arrête souvent. Mais pourquoi faire? Vous voyez, pendant tout ce temps-là, Élie a eu le temps du recueillement, de la méditation, de la prière. Voilà qui contraste avec la course effrénée dont nous avons parlé tout à l'heure quand il a pris la fuite et qu'il a fait 100 kilomètres, vraiment comme cela, parce qu'il avait peur d'abord de Jézabel et il avait peur aussi des sbires de Jézabel qui étaient lancés à sa poursuite parce qu'il n'était pas dans le plan de Dieu. Mais quand on est dans le plan de Dieu, alors je voudrais rappeler un verset que nous connaissons tous par cœur. Je vais commencer à le prononcer, vous allez faire la suite. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il n'y a plus de précipitation. Il a mangé ce qui était nécessaire. Maintenant, même s'il peut faire cela en 2 semaines, même s'il peut faire cela en 11 jours, même s'il peut aller plus rapidement, il ne le fait pas, parce que maintenant il sait que Dieu est avec lui. Il n'est pas en fuite, il marche sous le regard de Dieu. Mes frères et sœurs, ce que nous avons à chercher, nous, c'est à être sous le regard du Seigneur. Quoi que nous fassions, quelle que soit la direction que nous prenons, quelle que soit l'orientation que nous prenons après avoir consulté l'Éternel, si nous sommes sûrs d'être dans le plan de Dieu, alors n'oublions jamais que c'est dans le calme et dans la confiance que sera notre force. Que Dieu vous bénisse et vous encourage. Nous allons continuer à prier.